gens qui sont très pieux ou c'est même des gens qui sont pas forcément qui
Bah,
sont pieux mais sans plus.
je pense que quand même ça demande une certaine ça demande un certain avancement dans la vie spirituelle, parce qu'en gros c'est un sevrage. On sait que Dieu en général au début nous facilite notre vie spirituelle en nous donnant des consolations. D'ailleurs, il n'y a pas que Dieu, hein. Quand vous apprenez quelque chose, quand vous lancez dans quelque chose, en général, vous avez des consolations, hein, parce que vous êtes content de faire quelque chose de nouveau que vous aimez bien. Puis après, vous remarquez toujours qu'il y a un palier. Peut-être les premières fois, vous tirez quelques notes de votre piano, vous êtes content. Puis après, pour passer à jouer du Liszt ou vous êtes obligé de faire des exercices pas vraiment passionnants, hein. Et puis après, vous avez une certaine liberté quand vous avez acquis de la pratique. Je crois que c'est vrai dans tous les domaines. Donc il y a un domaine où on découvre une discipline, on est heureux, et après il faut passer. Regardez, quand vous apprenez une langue, les premières leçons d'assimil, vous êtes très content, vous dites trois phrases en hongrois, ou deux trucs en japonais. Bon. Et puis alors après, il faut taper la grammaire, les 21 cas du finlandais, du hongrois par exemple. Et puis des trucs de ce genre. Et alors là, c'est la traversée du désert. Et après, bon, après, vous pouvez parler avec Orban sans difficulté, mais bon. Mais donc là, c'est l'aurore après la nuit. Mais dans la vie spirituelle, c'est finalement, c'est pareil. Hein. Mais alors, la plupart du temps, c'est que comme on ne s'engage pas avec suffisamment de détermination dans la vie spirituelle, ce qu'on croit être, parce que quand on lit trop vite les mystiques, on s'imagine déjà qu'on est dans des nuits spirituelles, alors qu'on est tout simplement dans le manque de volonté, le manque de persévérance, le manque d'application, le manque de méthode, etc. Enfin, c'est là qu'en fait, on en est encore au début. Alors, c'est pour ça que je dis, les mystiques, faut les lire avec discernement, parce que sinon on risque trop vite de s'imaginer qu'on est Saint Jean de la Croix, alors qu'on a quelques distractions pendant l'oraison. Donc, soyons modestes. Hein.
Les trois conversions, c'est ça? Non, je disais les trois conversions, c'est ça, les trois conversions de Grégoire Lagrange, c'est...
Oui, les trois âges de la vie intérieure,
C'est ça?
là. Oui, c'est ça, il y a un peu de ça. Oui, il y a la voie, alors il dit la voie purgative, et la voie illuminative et la voie unitive. Donc purgative, ça veut bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on peut prétendre à avoir une véritable vie spirituelle quand on a quand même coupé les amarres avec,
Le
disons,
sensible.
Le sensible, ou au moins le sensible égoïstement perçu. Parce que précisément, on retrouve le sensible. D'ailleurs, on ne perd jamais, mais on le retrouve. Mais on est parfois obligé de le perdre méthodologiquement. Vous voyez, quand on veut se détacher de quelque chose, bah, à un moment, il faut
C'est
vraiment
vrai.
s'en détacher. Et puis après, une fois qu'on est libre par rapport à cette chose, on peut à nouveau la en jouir, mais d'une manière libre. En fait. Un très bel exemple de ça, c'est Saint François d'Assise. Saint François était asservi par rien, et du coup, il pouvait tout posséder. On a des textes de Saint Jean de la Croix qui disent exactement la même chose. Quand il dit toute la création m'appartient, la nuit, le jour, et même la mère de Dieu, tout m'appartient en propre, c'est parce que, en fait, il possède les choses à la manière dont Dieu les possède. En fait, finalement, c'est le but, hein, c'est s'identifier au Christ. Or, le Christ est le médiateur de la création. Donc, il est celui qui possède les choses en les faisant exister pour elles-mêmes. Voyez.
C'est qui dit ça, vous avez dit?
Saint Jean de la Croix. Et en fait, je pense que c'est aussi la pédagogie de l'amitié ou de l'amour. Hein, c'est-à-dire, au départ, on peut avoir un amour possessif pour quelqu'un. Et finalement, c'est un amour qui met mal à l'aise aussi bien celui qui aime que celui qui est aimé. Et puis, si on, bah, on peut-être, on, il faut, il y a un moment d'ascèse, et puis un moment, on peut aimer la personne de manière à la rendre plus libre, enfin, l'aimer librement et se réjouir de sa liberté, enfin, à elle. Donc, Et je pense, par exemple, pour les parents, c'est une évidence. Hein, quand pour les enfants, finalement, les enfants, au départ, finalement, leurs parents, c'est tout. Hein, enfin, le risque d'idolâtrie des parents par les enfants, quand ils sont petits, c'est une évidence. Et puis, après, il faut consentir à ne plus les posséder, mais les aimer de manière à ce qu'ils soient libres dans leur vie, quoi. Et donc consentir à ce qu'ils s'éloignent, évidemment, mais c'est une manière de les aimer pour eux-mêmes et pas pour soi. Ouais. Donc du coup, il y a une conversion, hein. Mais vous voyez, c'est pareil dans la vie spirituelle, hein. Notamment par rapport aux sensibles. Du coup, il faut être très attentif à pas tomber dans le dualisme platonicien. Vous vous souvenez, on avait quand même certains pères qui avaient tendance à dire la vie spirituelle, ça consiste à se dépouiller de tout ce qui est sensible. Allez, continuez peut-être plus loin, vous arrivez au bouddhisme ou au suicide. Hein. Les cathares, par exemple, qui se suicidaient. Non, en fait, la vie spirituelle, ça consiste à être libre par rapport à tout. Y compris par rapport à soi. Et donc, posséder à la manière dont Dieu possède. Et Dieu possède les choses en les faisant exister, c'est-à-dire en les rendant libres. En les rendant autonomes, etc. Et donc, c'est le but un peu de notre vie spirituelle. Hein. Donc, vous voyez comment tout ce qu'on a pu voir là du commencement du deuxième siècle avec les platoniciens, mais on trouve les ramifications dans toute la spiritualité occidentale et orientale pendant des siècles, hein, parce que finalement c'est les mêmes questions qui se posent toujours. Hein. C'est la question de notre liberté par rapport à tout ce qui peut nous rendre esclaves. Et voilà. Alors, je parlais de Cassien. Alors, voilà, donc le but, c'est d'arriver à cette tranquillité d'âme qui sera développée ensuite dans la tradition byzantine sous le nom d'hésychasme, d'apathie, pas au sens... mais d'apathéia, donc l'apathéia, c'est le fait de ne pas souffrir des passions. Alors, vous voyez, ça ne veut pas dire... Alors, il y a une apathéia qui est, par exemple, celle des stoïciens, qui consiste à dire, pour ne pas souffrir, alors c'est très égoïste, hein, pour ne pas souffrir, ne désirons pas. Et si on ne désire rien, ben, évidemment, on souffrira de la non-possession de rien. Bon, donc ça, c'est vraiment une solution, alors pas facile à mettre en œuvre, mais en tout cas, voilà. Donc, le but, c'est pas ça, en fait. Pour nous, c'est pas ce genre d'apathie, mais c'est vraiment de ne plus souffrir de nos passions désordonnées parce qu'on les a réordonnées. Regardez, c'est toute la logique des exercices spirituels de Saint Ignace. Hein. C'est pas de tuer le désir, mais c'est de réorienter le désir vers ce que Dieu veut. Saint Thomas d'Aquin dit la même chose dans toute sa partie anthropologique, donc en disant que le désir est vraiment le carburant de la sainteté. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit exactement la même chose en disant qu'elle avait des désirs immenses et qu'elle avait constaté qu'elle avait des capacités très faibles, des désirs immenses. Alors, elle pourrait se dire, adaptons nos désirs à nos capacités. Eh bien, elle dit non. Et comme elle est aussi consciente qu'elle ne peut pas augmenter ses capacités au niveau de ses désirs, elle dit, la différence entre les deux, c'est la grâce qui doit la combler. Vous voyez, c'est le cœur de la pensée de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Donc, voilà. Alors, comment parvenir à cette tranquillité d'âme, à cette réorganisation de nos passions, discipline de nos passions? C'est grâce à la méditation de l'Écriture. Et on peut dire que pour les pères, globalement, quand ils sont dans leurs ermitages dans le désert, ils n'ont rien d'autre que de l'osier pour faire des paniers et des parchemins, enfin des papyrus avec la parole de Dieu. En fait, ils n'ont même pas le papyrus parce que la parole de Dieu, ils l'ont apprise par cœur avant. Donc, ils connaissent quasiment leur Bible par cœur et ils la repassent continuellement dans la journée. Vous voyez. Alors, toute la Bible, peut-être pas le Lévitique ou je sais pas quoi. Ils ont peut-être quand même besoin de papyrus là, quand même. Mais le psautier, c'est évident qu'ils connaissent leurs 150 psaumes par cœur. De toute manière, à l'époque, tout le monde avait une mémoire bien meilleure que la nôtre. Hein. Ça, c'est une évidence.
On a parlé qu'il y avait, c'était pas tous, un monastère, le moine était ermite tout seul dans un coin pendant une certaine période. Et pour pouvoir y aller, il fallait qu'il puisse réciter à l'abbé la totalité des offices qu'il aurait récité.
Ah, voilà, exactement. Oui, oui. Parce que figurez-vous que les écrits sont toujours extrêmement coûteux. Or, les moines sont quand même des gens qui sont pauvres. Hein. Donc, tout se connaît par c'est par l'apprentissage. Vous voyez, les écoles coraniques dont on se moque un peu, parce que ça ressemble à du psittacisme, là, du rabâchage. Mais dans les pays où il n'y a pas de papier, qu'est-ce que vous voulez, on apprend les choses par cœur, au pied d'un maître.
C'est un peu comme les protestants, ils sont dans cet esprit aussi.
Oui, voilà. Et alors, la difficulté, c'est là où la grâce agit, c'est que la grâce permet à cette connaissance par cœur de devenir fructueuse, et pas simplement d'être un simple rabâchage, en quelque sorte. Alors, je pense que pour un certain nombre de moines, ça a pas dû dépasser beaucoup le rabâchage, mais pour un certain nombre, c'est devenu une véritable... la base d'un... Vous voyez, un Ephrem de Syrie, s'il peut faire tant de rapprochements, etc., c'est parce qu'en fait, tous les versets sont présents à son esprit quand il écrit. Et donc voilà, il n'y a pas besoin d'un logiciel spécial sur son ordinateur pour mettre tous les mots pareils dans le... Et donc voilà, et puis il y a aussi le fait qu'on est d'abord cénobite, justement, parce qu'on apprend le métier de moine en communauté. On apprend notamment la charité, parce que quand même la pierre de touche de la charité, c'est la vie communautaire. Hein. Comme dit saint Jean, on peut toujours dire que j'aime Dieu, mais si tu n'aimes pas ton frère, ton amour de Dieu ne vaut pas grand-chose. Et de fait, quand on est en communauté, on est bien obligé d'apprendre la charité. Et quand le moine est équipé pour le combat, donc il aura appris sa Bible, il aura appris, les règles de la vie monastique, et bien il est lâché dans le désert, et là il devient ermite. Alors certains reviennent ensuite enrichir le monastère de leur expérience d'ermite. Donc vous voyez, il y a une souplesse dans tout ce monachisme égyptien. Et alors, ce qu'ils appellent, donc c'est la vie anachorétique. Anachoros, ça veut dire se retirer. Eh bien, c'est une vie, c'est ce que Jean Cassien appelle la scientia spiritualis par rapport à la scientia activa, celle qui était de la vie cénobitique. Là, c'est la prière seule par négation de tout ce qu'il y a de retour sur soi, de désir des choses temporelles, enfin de désir désordonné des choses temporelles, etc. Alors là, vous avez... Alors, il y a des collections qui sont parues, par exemple, des apophthegmes des Pères du Désert, donc des petites maximes qui sont... Il y en a une qui m'a beaucoup plu, parce que comme je me plains toujours de ne pas avoir beaucoup de mémoire, et notamment de ne pas me souvenir des sermons que j'entends. Et il y a justement un jeune moine qui demande à un abba dans le désert, il lui dit père, je n'arrive jamais à retenir tout ce que j'entends de beau, etc., etc. Et alors le père prend une salade, il met de l'eau dessus, et il dit tu vois, la salade ne retient pas l'eau, mais elle est propre. Donc voilà, on ne retient pas nécessairement les paroles exactement, etc. Mais ça a fait un effet sur nous. Et l'effet cumulatif de beaucoup de sermons, beaucoup de livres lus, ça finit par transformer la personne à son insu. Vous voyez ? Donc c'est à peu près le seul... C'est la pauvre texte dont je me souviens. C'est un peu rassurant. Bon, en tout cas, ça m'a beaucoup rassuré. Ça m'a beaucoup rassuré. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit encore, notre question ? Alors, comme toujours, et toujours dans cette tradition juive, vous savez, la grande idée du sage... du philosophe grec, de l'amoureux de la sagesse chez les Grecs, c'est on se détache du matériel, du temporel, et donc il faut, pour pouvoir penser et être sage, il faut être dans l'oisiveté, enfin, dans l'otium, donc ne pas être gêné par les travaux manuels, par les choses de ce genre. Donc, en général, les philosophes, c'était des patriciens, voilà, qui avaient des domestiques à leur disposition. Et, disons, la spiritualité, c'était réservé à la caste de ceux qui n'avaient pas besoin de se fatiguer pour vivre. Et dans le judaïsme, au contraire, les sages sont ceux qui, par obligation, doivent travailler de leurs mains. Et encore aujourd'hui, théoriquement, les rabbins doivent avoir un métier manuel. Et par exemple, dans les shtetls en Lituanie ou en Pologne, souvent des sages, c'était le brave cordonnier ou le je sais pas qui, le tailleur ou des gens comme ça. Et il y a des histoires comme ça de je sais pas qui, Shlomo le tailleur ou etc. qui sont des voilà, parce que les Juifs ont compris que Dieu agit et que il agit dans la création et que nous, nous avons à agir aussi dans la création matérielle.
C'est ce que dit Bobby Fischer.
Et un échec.
Ouais. Non, bon, ça a un truc pour l'instant, mais si personne que ça.
Et alors ensuite, les moines vont reprendre cette tradition. Avec l'obligation du travail manuel. Alors, je vous disais, ils partent avec leur papyrus dans la tête, mais en revanche avec de l'osier dans les mains pour fabriquer, enfin, de l'osier, oui, c'est ça, ce qui sert à faire du papyrus aussi d'ailleurs. Donc, pour faire des paniers, des trucs comme ça qui sont vendus ensuite dans les villages. Alors Cassien insiste donc beaucoup sur le travail manuel et sur la charité, et en fait il va influencer beaucoup le monachisme occidental à cause de ça. Travail manuel, charité et on peut dire stabilité, alors que regardez les moines irlandais, alors ils sont très très très, enfin je dis pas qu'ils sont agités, mais ils le sont un peu quand même, ils bougent beaucoup, etc. Tandis que là, on a l'insistance vraiment, le travail manuel et la charité. Et il relève trois dangers quand même dans ce monachisme égyptien. Alors, et encore, c'est à côté du monachisme syrien, c'est peu de choses. La compétition, c'est-à-dire à celui qui jeûnera le plus, à celui qui dormira le moins, à celui qui mangera le plus d'herbe, enfin voilà. La publicité, avec tous les dits des abats qui circulent, etc. Et l'excès.
Les dits des abats.
Les dits.
Ce qu'ils ont dit.
Oui, c'est ça.
D'intelligent.
Oui, c'est ça. Mais du coup, alors on dit ah ben un tel, il est vraiment bien, etc. Bon. Et puis voilà, c'est ça. Puis alors il y a des groupes de disciples qui disent on va chez lui parce qu'il est mieux que l'autre. Et puis enfin, vous voyez, il y a un peu une sorte de d'émulation, et puis l'excès qui voilà, on vise presque la performance ascétique. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, être libre par rapport au matériel, quand même pour beaucoup c'est toujours compris de manière platonicienne, donc ça signifie on méprise le corps et tout ce qui est de l'ordre de la matière. Alors,